Dans ce cloître, pas tout à fait, mais enfin dans ce nouvel espace. Alors on a un programme un petit peu chargé, bien évidemment, aujourd'hui, avec le spectacle d'ouverture de la cour Plateau 9 d'Éric Lacascade que l'on attend, la décision Mauser, mise en scène par Jean-Claude Fall, qui est ici, et deux spectacles pour les rencontres d'été de la Chartreuse, encore plus de gens d'ici et réserve d'acteurs. Donc on va parler ça au fur et à mesure. Mais je crois, Bernard Ferraud-Darcier, qu'il faut dire deux mots sur la cour et peut-être sur ce plancher un peu étrange qui, dans ce lieu aride, donne quand même quelque chose de l'histoire du festival.
Oui, alors comme vous le savez, hier nous faisions un peu la dernière conférence de presse dans les jardins rue de Mons, donc une petite bouffée de nostalgie où l'on présentait notamment tous les partenaires du festival. Alors ce jardin de la rue de Mons est quand même conservé par le festival pour les écritures contemporaines, pour les débats qui seront organisés d'ailleurs avec Le Monde et pour quelques autres usages. Donc je ne désespère pas de pouvoir continuer à avoir l'usage de ces jardins qui reviennent à la municipalité d'Avignon, évidemment, l'hôtel de Crochamps, et qui jouxte évidemment la maison Jean Vidard, laquelle cherche un petit peu à s'étendre. Donc comme vous le savez, cette année, nous avons décidé du coup de regrouper tous les services de festival ici à Saint-Louis. Saint-Louis qui avait été rénové à l'époque pour le Centre National du Théâtre, projet qui n'a pu véritablement voir le jour, mais qui est maintenant s'avère bien utile évidemment pour loger la totalité des services du festival. Dès lors, la matinée sera ainsi rythmée. Il y aura les colloques professionnels à ce qu'on appelle un peu la maison du théâtre, c'est-à-dire l'aile de l'ISTS, plutôt vers 10h du matin. Mais il y a aussi à 11h donc les présentations dites de presse, mais enfin, disons, c'est à la fois à la presse et aux professionnels que vous animerez donc tous les jours avec votre belle voix radiophonique.
Loin du micro.
Loin du micro. Et puis à 11h30, dans le cloître lui-même, nous inaugurerons un cycle de débats avec le public et les artistes. Ça veut dire que les artistes, en quelque sorte, viennent automatiquement deux fois. Une première pour expliquer à quel point ils se sont couchés tard la nuit, ce qui est le cas d'ailleurs d'Éric Lacascade, et parce qu'ils sont en période de montage et deux jours avant leur première, et puis quelques jours après quelques représentations, pour un débat avec le public à 11h30, qui débat qui sera animé par Georges Banu.
Où ils expliquent
qu'ils se sont couchés tard, et, mais les spectateurs aussi.
Je voulais vous entendre sur l'histoire du plancher.
Alors ici, c'est un endroit qui n'a pas encore complètement de nom, qui était un parking, mais que les services techniques du festival ont aménagé. Donc je les remercie d'ailleurs, services techniques qui ont en ce moment un travail de chien, mais qui affrontent tout résolument. Et puis je voudrais remercier aussi le service des jardins de la ville d'Avignon, dont on sait l'efficacité. Nous appelons ça entre nous les planches, parce que c'est en fait, vous êtes sur l'ancien plancher de la cour d'honneur. Cette cour d'honneur qui a été rénovée, donc étant donné que nous avions 0 € pour aménager ce lieu, tout a été fait homemade, donc c'est le plancher de la cour d'honneur, celui qu'ont foulé tant d'acteurs, et les palissades sont celles du CID que nous avions donné pour le 50e anniversaire du Festival d'Avignon. Donc vous voyez que rien ne se perd, tout se récupère. Et c'est ici donc qu'on pourra voir, y compris avec le bar à côté que nous avons aménagé, ces réunions comme ça. Je l'espère que ce sera pas trop bruyant, enfin c'est la première fois qu'on utilise ce lieu, mais qu'il sera agréable. Donc on a regardé évidemment la disposition du soleil, de façon avec une forêt de parasols, à ce que vous soyez un peu protégés des rigueurs d'un soleil que nous apprécions quand même bien en ce moment.
Et puis on finira les conférences de presse peut-être avec des lunettes de soleil ou... Voilà, une séance crème.
J'espère par un petit pot en général, juste à côté.
Donc on va commencer avec le, non pas le premier spectacle de ce festival, mais avec un des spectacles qui fait l'ouverture, La décision et Mauser, avec vous Jean-Claude Fall. Un diptyque, Brecht d'un côté pour La décision, Mauser, Heiner Müller. Pourquoi ce choix de mettre face à face ces deux textes qui ont été écrits à, vous allez me corriger, 50 ans d'intervalle à peu près ?
40. Ils ont été écrits l'un par rapport à l'autre, donc ça m'a semblé tout naturel que de les rapprocher. La décision est écrite en 1930, C'est une pièce qui pose problème. Donc on en parlera peut-être un peu plus longuement, puisqu'elle a été d'une part l'objet d'une censure au moment où elle a été écrite, et ensuite l'objet d'une autocensure quelques années après, puisque Brecht a toujours refusé que la pièce soit jouée. Il a toujours voulu qu'elle soit publiée, puisqu'elle a toujours figuré dans les œuvres de Brecht, mais il a toujours refusé qu'elle soit jouée. En tout cas, il a longtemps refusé qu'elle soit jouée. Les héritiers Brecht ont cru que c'était une volonté éternelle, et donc ils ont refusé que la pièce soit jouée jusqu'à aujourd'hui.
Et vous avez eu la sensation de l'exhumer un petit peu ?
Non, pas du tout, parce qu'elle est connue. Plein de gens ont travaillé dessus, plein de gens ont souhaité la monter. Je sais que Planchon avait beaucoup, à plusieurs reprises, demandé les droits, mais il y avait un tabou, mais on pourra s'expliquer un peu là-dessus. Et puis, Heiner Müller, en travaillant sur le terrain de la pièce didactique, a écrit Mauser à propos de la décision, en prolongement de la décision, en écho à la décision. J'ai voulu les rapprocher dans la mesure où Mauser prolonge, il ne dit pas du tout la même chose différemment, il dit complètement autre chose. Ce dont ça parle, c'est, on pourrait dire, le prix à payer, voilà. Le prix à payer pour la révolution. Et Brecht nous donne un point de vue qu'on pourrait résumer à « change le monde, il en a besoin ». Il y a un chant qui dit « À qui le juste ne parlerait-il pas pour aider la justice ? Quelle bassesse ne commettrais-tu pas pour exterminer la bassesse ?» Ça, c'est le point de vue que développe Brecht dans la pièce, même si, comme on sait, hein, Brecht, c'est toujours plus compliqué que ça n'en a l'air, et donc les pièces didactiques, si on les prend qu'on s'y plonge et qu'on y travaille au plus profond de ce qu'elle raconte, ce sont des abîmes, ça nous laisse dans des abîmes de perplexité. Celui qui dit oui, celui qui dit non, je mets au défi quiconque de dire qu'il y a là un point de vue définitif, tranché, ça ne fait que poser des questions, c'est un objet de débat, hein, la pièce didactique. Et Müller, lui, dit à quoi bon tuer, à quoi bon mourir si le prix de la révolution est la révolution.
Alors, on va peut-être donner la parole à la salle tout à l'heure, mais on va essayer quand même de poser deux, trois choses sur ce spectacle et sur ce diptyque. Quand vous dites l'une répond à l'autre, en même temps, l'une n'avait jamais été jouée avec l'autre.
Non,
la première fois.
D'autant plus que la décision n'a jamais été jouée tout court. Donc, elles auraient eu du mal à être jouées ensemble. Mauser de Heiner Müller a beaucoup été joué. Je l'avais vu au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, monté par Jean Jourdeuil, qui l'a traduite et qui l'a fait découvrir en France l'œuvre de Heiner Müller. Et c'était un souvenir très très fort. Ça m'avait secoué. Mais en même temps, j'avais, je crois, pas bien compris de quoi ça parlait. Et en tout cas, je ne m'en souvenais plus. Et c'est vraiment en travaillant dessus, je me suis rendu compte à quel point, d'abord, c'est une écriture magnifique, hein, on peut dire c'est comme un requiem païen, quelque chose comme ça, un grand poème sur la mort qui est absolument sublime, mais aussi que ça posait des problèmes cruciaux pour aujourd'hui, pas seulement sur la révolution russe, ça dépasse très largement la révolution russe, le cadre de la révolution russe, c'est, j'allais dire, tout mouvement violent de renversement des valeurs pourrait trouver là matière à une réflexion difficile, mais nécessaire, capitale.
Alors, justement, vous dites dans le dossier de presse que ce spectacle fait partie d'une trilogie sur la Révolution et sur un travail sur la Révolution russe.
Oui.
Vous pouvez vous en expliquer un peu.
D'abord, trilogie, ça part des Trois Sœurs et ça arrive à Mauser. Les Trois Sœurs comme espérance, hein, la Révolution comme espérance, comme porteuse d'utopie positive, etc. Dans les Trois Sœurs, la figure qu'on peut voir à travers le puzzle assemblé par Tchekhov, au bout du compte, c'est la révolution dont il s'agit. Hein. Et la révolution qui arrive, la révolution qu'on va faire, ou la révolution qui va nous balayer. D'ailleurs, c'est la seule pièce de Tchekhov où les héros ne seront pas balayés par la révolution. Probablement, ils participeront au mouvement révolutionnaire russe. Et puis, la deuxième, c'est la décision avec... on est au cœur de l'action. On est dans le cœur de la révolution, dans le cœur de l'échec de la révolution aussi, ou de la mise en échec, ou de des problèmes brutaux, violents, rencontrés au sein même du mouvement révolutionnaire. Et Mauser, c'est une réflexion sur, j'allais dire, la révolution passée. Quelle leçon, quel bilan on peut en tirer, ou quelle leçon on peut en tirer, à la fois pour poser la question du prix à payer pour chaque chose et pour poser la question du chemin pris. Est-ce que la fin justifie les moyens, toutes ces questions qui sont liées à toutes les utopies.
Mais peut-être aussi la nécessité de continuer une révolution.
Alors, c'est ce à quoi je voulais en venir, à savoir que quand j'ai eu ce projet, beaucoup de gens me disent « Mais la révolution, mais de quoi tu parles ? C'est plus du tout à l'ordre du jour, tu te trompes complètement. » Et justement, j'étais assez... moi, je suis pas en colère, mais ça me trouble beaucoup, la façon dont on a traité la Révolution française en 93, enfin, entre 93 et 96, pendant ces trois années où on a beaucoup parlé de la Révolution française. On a retiré de la Révolution française que la terreur. Mais il y a deux siècles de philosophie des Lumières derrière la Révolution française. Il y a tout ce qui fonde nos valeurs. Alors, bien sûr, il y a la terreur. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas poser la question. Ne pas se poser la question et poser la question. Mais est-ce que le seul bilan qu'on tire de la Révolution française, nous, ici, en ce moment, c'est « mon Dieu, quelle horreur !» Ça m'a vraiment secoué, vraiment. J'ai trouvé les médias, les historiens, souvent très légers sur ces questions-là. Et puis, je trouve que c'est dangereux de classer, de ne pas vouloir parler, d'occulter, d'oublier ce qui s'est passé pendant 80 ans. En Russie, enfin même plus, presque un siècle, qui est aussi porteur de qui est aussi porté par là aussi deux siècles d'histoire du mouvement social, par une utopie généreuse du partage des richesses, du partage du travail, et qui pose des questions qui sont toujours à l'ordre du jour, plus que jamais à l'ordre du jour. Quand on voit, je ne sais pas, ce qui s'est passé à Gênes ou ailleurs. Et je trouve que cette occultation de ces problèmes-là, de l'utopie d'ailleurs, en général, pas seulement de la Révolution, c'est dangereux, voilà, que ça nous met en danger. Et donc j'avais envie de dire, et si on reparlait de tout ça un tout petit peu, si on se reposait un certain nombre de questions. Le spectacle, j'espère... pose question, voilà.
Alors on va parler peut-être un petit peu de la narration. Est-ce qu'on peut parler de narration d'ailleurs dans la décision?
Oui, bien sûr.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui va être exécuté par ses condisciples. Allez-y.
C'est pas exactement ça. C'est l'histoire de... Enfin, c'est déjà le théâtre épique qui commence, curieusement. C'est probablement la première ébauche du théâtre épique, puisque c'est une histoire racontée. Ces quatre agitateurs qui reviennent d'une mission en Chine que la révolution russe leur a donnée, d'aller porter le message révolutionnaire en Chine, et ils reviennent, ils sont fêtés par le cœur de contrôle. C'est un spectacle dont les racines sont dans la Russie des années 30, hein. Ils sont accueillis donc par le cœur de contrôle et ils disent: attendez, avant de nous fêter, nous avons à signaler la mort d'un camarade qui l'a tué, c'est nous qui l'avons tué. Et nous voulons être jugés pour ça. Et le cœur de contrôle leur dit: racontez-nous l'histoire et nous vous jugerons. Et donc, les quatre agitateurs racontent ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que ils étaient accompagnés d'un cinquième jeune camarade qui laissait passer parler son cœur plutôt que sa raison, réagissait tout de suite aux situations et non pas dans une analyse qui est l'analyse du parti. Donc il s'est mis petit à petit en rupture avec les agitateurs et le travail des agitateurs, et il s'est mis, j'allais dire, du côté du peuple, pour dire vite, hein. Et petit à petit, il a mis en danger la mission des quatre agitateurs, qui avaient le choix entre poursuivre leur mission ou se débarrasser de ce jeune camarade encombrant, devenu trop encombrant. Et comme la mission est plus importante, ils choisissent de se débarrasser du camarade. Tout se passe très bien. C'est comme en général chez Brecht, c'est assez. L'écriture est très vive, presque joyeuse, presque ludique. Il y a un vrai plaisir à raconter l'histoire et à se faire raconter l'histoire. Et puis ça se termine dans une catastrophe, un peu comme la Révolution russe, on pourrait dire. Et comme Brecht ne sait pas être manichéen en réalité, bien qu'il en ait la réputation, mais c'est à mon avis complètement faux. Comme il ne sait pas être manichéen, au bout du compte, on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu dire, quel parti il a pris. Et c'est ce qui s'est passé en 1930. Quand la pièce a été lue par le comité de lecture du Festival de Berlin, parce que c'est un opéra, hein, c'est un opéra sans chanteur, un opéra pour chœur sans chanteur. Et on dit un opéra païen aussi. C'est pour ça que je parlais de Requiem païen pour Mahler, parce qu'il y a une référence musicale très forte.
Et là, vous avez retrouvé la partition de Hans Eisler et vous avez mis sur scène...
Donc, c'est la version telle qu'elle a été pensée.
Une trentaine de choristes.
Il y a 30 choristes, 11 musiciens. Et donc, quand ils ont lu ça, le comité de lecture a dit, mais c'est pas possible, on peut pas jouer ça. Donc, on refuse la pièce. Donc, ça a été refusé, il y a eu un scandale, ils ont joué la pièce. La pièce a été jouée avec un chœur amateur et un orchestre ouvrier... Dans un autre théâtre à Berlin. Et là, ça a été un scandale total, avec un double scandale. Ceux qui pensaient ceux qui étaient proches du Parti communiste d'Union soviétique pensaient que c'était un scandale parce que ça dénonçait les purges staliniennes, et les dénonciateurs des purges, ceux qui luttaient contre le PCUS, on dit que c'était un scandale parce que ça faisait l'éloge des mêmes purges. C'est-à-dire qu'il y a eu deux interprétations totalement opposées. Et probablement parce que la pièce pose des questions qui sont... Enfin, met le doigt sur des questions de manière très violente, d'une certaine façon. Au bout du compte, dans une apparence... très ludique.
Alors, si on revient sur l'histoire du chœur et sur la présence du chœur sur scène, c'est un chœur qui est installé, d'après ce que j'ai pu comprendre, finalement face au public, oui. L'action se déroulant entre des gradins qui sont ceux du public et des gradins sur lesquels sont installés les choristes. Pourquoi avoir choisi de revenir à cette version musicale? Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité ou l'envie peut-être de faire quelque chose de plus soft?
En fait, comme tous les gens de théâtre, quand j'avais lu il y a très longtemps déjà, enfin depuis longtemps, j'ai envie de monter La Décision. La Décision comme pièce de théâtre. Et puis j'avais l'intention de monter, d'ailleurs j'en avais parlé à Bernard de cette façon-là, j'avais l'intention de monter La Décision, la pièce de théâtre. Et puis j'ai commencé un travail préparatoire avec... les comédiens de la troupe, et puis on a lu par curiosité la partition de Eisler qu'on a mis beaucoup de temps à trouver, puisqu'elle est très difficile à trouver. Il n'y a pas de discographie ni rien, puisque l'œuvre n'a jamais été représentée. Et donc, je me suis dit peut-être qu'on peut en tirer une chanson ou une chose comme ça. Et puis, en regardant la partition, en travaillant sur la pièce avec la partition, on s'est rendu compte tous ensemble que on ne pouvait pas ne pas faire la proposition dans sa totalité. C'était écrit pour ça. Et donc, la décision a été prise petit à petit. Alors, au début, je cherchais à gagner un peu d'argent, en me disant que je vais le faire avec 5-6 choristes, puis je vais faire 2-3 musiciens, on va adapter. Au bout du compte, il y a 11 musiciens et 30 choristes sur le plateau, comme c'est écrit.
La tentation de l'opéra, quoi.
On ne pouvait pas ne pas aller au bout du projet. À partir du moment où on l'exhumait de cette façon-là, on ne pouvait pas ne pas aller au bout du projet. Donc on l'a fait.
Jean-Claude Fall chante d'ailleurs. Il fait partie du chœur, je vous le signale, c'est un très très bon comédien, mais il donne de sa personne.
C'était un secret.
Ça y est, c'est trop tard. Peut-être que mes confrères ont quelques questions.
Alors on a beaucoup parlé de la décision, on n'a pas parlé de Mauser. Et Mauser, c'est l'envers de la décision. Autant la décision, il y a sonorisation, chœur, cuivre, enfin la musique est très présente, le son est très volumineux. Il y a des couleurs, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de théâtre. C'est presque joyeux, encore une fois. Je dis presque parce que ça se termine mal, autrement ce serait très joyeux. Et puis arrive Mauser qui est vraiment l'envers de ça. On pourrait dire que c'est une image en noir et blanc ou c'est... en photo, comme on appelle, un négatif.
Il y a un côté coup de poing dans Mauser.
Voilà,
ne serait-ce que dans les rythmiques de la première partie.
La musique est exclusivement dans la poétique, dans la prosodie de la proposition de Heiner Müller. Donc il y a plus de musique, il y a plus de sonorisation, il y a 5 acteurs dans un très vaste espace et qui disent de manière très très aiguë, acérée. Ce texte qui ne prête pas du tout à rire.
Pour en arriver à Mort aux ennemis de la Révolution.
Mort aux ennemis de la Révolution comme une citation de l'histoire et comme une question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Alors il faut peut-être rappeler que les deux pièces donc, sont données l'une après l'autre sans interruption. Hein, c'est une seule soirée parce qu'elles sont assez courtes d'ailleurs.
1h30 à peu près.
Donc 1h30 au total pour la décision et Mauser.
Dans la cour du lycée
donc,
Saint-Joseph.
Voilà, la cour du lycée Saint-Joseph, donc un des grands lieux. Donc j'en profite pour dire d'ailleurs et pour rappeler, étant donné d'ailleurs que nous commençons le festival assez tôt cette année, dès le 5 juillet, qu'il y a toujours des places disponibles. Je dis ça parce que souvent on nous dit « Ah mais au festival c'est très difficile d'avoir des places, etc. » Sachez que cette semaine qui s'annonce, à partir de vendredi, il y a de la place partout dans les grands lieux des festivals, que ce soit la cour de Saint-Joseph, que ce soit aussi la cour d'honneur. Je dis ça parce que sinon on entend le contraire. Donc n'hésitez pas à le rappeler, c'est important. Et d'ailleurs, on va préparer un petit communiqué là-dessus, ça sera encore plus simple. Voilà.
Du 6 jusqu'au 12.
Du 6 au 12 avec relâche le 8. Sur cette phrase « Mort aux ennemis de la Révolution », et parce que la pièce de Brecht se termine aussi par « Je dis oui à la transformation du monde par la révolution ». C'est ce que dit le jeune camarade au moment où il se fait tuer. Et on ne sait pas à qui s'adresse la phrase. Qui sont les ennemis de la révolution ? C'est écrit comme ça, et je l'ai mis en scène comme ça. On ne sait pas du tout si ce mort aux ennemis de la révolution se dit à ceux qui sont en train de prétendre tuer au nom de la révolution, ou à... aux ennemis.
Donc vous avez joué complètement les ambivalences de Brecht.
Bien sûr, bien sûr.
Y a-t-il voilà. quelques...
Donc c'est une pièce pour vieux gauchistes
oui.
Pas du tout. Et jeunes révolutionnaires, d'ailleurs qui peuvent bénéficier du tarif jeune aussi, sans problème, sans difficulté, à partir de vendredi.
C'est pas du... ça parle, si, vraiment, je vous assure que si, à la fin de Mauser, on est vraiment plongé dans ce qui se passe aujourd'hui, partout dans le monde, sauf ici. Mais il y a une autre révolution ici, qui est au moins aussi violente, et qui s'appelle le libéralisme. Je crois qu'elle est au moins aussi violente. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, comment les États-Unis traitent le reste du monde. Je ne sais pas du gauchisme de dire ça. Je crois qu'on se leurre quand on pense qu'il n'y a pas là un processus violemment révolutionnaire.
C'est une pièce qui, quand elle a été montée, a été censurée et a valu d'ailleurs au directeur du Festival de Berlin d'être viré, je crois, non?
Non,
il a été très contesté. En fait.
Il y a eu un gros scandale, mais ne crains rien.
La révolution est derrière nous ou devant nous, mais on verra. Bien.
Avez-vous des interrogations? Non, rien. Ils sont convaincus?
Eh ben,
merci.
Merci Jean-Claude Fall. Je pense que j'ai vu le crâne d'Éric Lacascade.
Oui,
donc je pense qu'il est arrivé.
Je vais laisser une place.